Le balado qui suit est une production de Communication Niviti, Capable Média.
Ici Kim Auclair pour Capable Entreprendre sans limite et vous écoutez la saison 2 de ce magazine que j'ai eu énormément de plaisir à produire, mais aussi à animer. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à partager en grand nombre chacun des épisodes. Bienvenue à Capable. Aujourd'hui, on rencontre une entrepreneur qui a su réinventer son quotidien en créant autrement. Marisol, tu es artiste, conférencière, auteur. Tu es aussi une excellente communicatrice. Et malgré un important événement dans ta vie qui a amené à une importante amputation, tu as su recréer ta vie autrement, avec humour et beaucoup de couleurs. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Bien, un plaisir, Kim. Merci de m'avoir invitée.
Marissa, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ton entreprise Les Illusards.
C'est un jeu de mots avec illusion, illustration, mais tous les arts. En fait, c'est mon entreprise que j'avais avant d'avoir la quadruple amputation. Moi, je suis artiste de peintre depuis toujours. Hein. C'est ce qui m'a définie dès ma petite enfance. J'ai grandi avec ça. Et j'ai travaillé dans le domaine là, du théâtre, en fait, du décor. J'ai étudié dans le décor du théâtre, mais j'ai travaillé dans des ateliers de décor qui faisaient le de tout, là, publicité, télévision, cinéma un tout petit peu, toutes des choses comme ça. Et je trouvais que j'avais envie, moi, d'être un petit peu plus créative. Donc, j'ai déménagé à Trois-Rivières. C'est là que j'ai lancé l'entreprise Les Illusards, où je faisais des murales grand format dans les commerces, les chambres pour enfants. Et c'est là, après un an où tout allait pour le mieux, là, au-delà de mes espérances, bien que j'ai attrapé là, la bactérie mangeuse de chair qui a amené les quatre amputations. Et oui, il a fallu recréer cette entreprise-là parce que là, monter dans des échafaudages, faire les immenses murales que je peignais auparavant, c'était un petit peu plus compliqué. Fait qu'on s'est un peu redirigé. Je dis « on » parce que là-dedans, dans cette belle aventure-là, j'étais avec mon amoureux, mon conjoint aussi, là, qu'on travaille ensemble. Et on a réélaboré l'entreprise avec, oui, une version conférence que j'avais pas du tout avant, là, ça c'est bien sûr. Là. Mais aussi, la peinture a repris naturellement une très, très, très grande place dans ma vie.
Comment t'as vécu ça? Qu'est-ce qui t'a influencé à continuer à créer malgré l'événement qui s'est passé?
Bien, tu sais, c'est comme si on venait de m'arracher toute ma vie, toute ma personnalité, tout ce par quoi je me définissais. C'était ça, mes objectifs de vie. Moi, je voulais continuer à peindre parce que je suis peintre. Et là, tout d'un coup, on me coupait les deux mains. Moi, j'ai vraiment cru que c'était mes mains qui faisaient que j'étais bonne. Hein? Je pensais que c'était mon talent, je le devais à mes mains. Fait que j'ai vraiment cru là, que plus jamais j'allais pouvoir peindre. Mais c'était trop ancré en moi pour que je mette ça de côté. Et ça se pouvait comme pas. Puis c'est mon amoureux qui m'a attaché un crayon. Après, mon mignon, il me l'a attaché, là, mais pratiquement avec du duct tape, là, pour être sûr que ça bouge pas. Puis il m'a laissé devant une petite feuille blanche. C'est là que j'ai recommencé à dessiner pour la première fois.
C'était dans ta tête.
Oui.
C'est dans ta tête.
Oui.
Le talent était dans ta tête, mais pas parce que tu savais te servir de ton bras ou quoi que ce soit.
Oui, c'est pas les doigts, c'est fou, hein? Exactement. Puis c'est un des plus grands apprentissages que ça m'a apporté, c'est de réaliser que c'était pas mes mains qui peignaient, mais que c'est moi. Puis moi, bien, je suis encore là. Même s'il manque des morceaux, je suis la même. Mais là, en plus, je me retrouvais avec bien, des choses à raconter. J'avais encore plus de choses à aller peindre parce qu'avec le vécu que tout ça m'a apporté, j'avais des choses à partager. Fait que finalement, c'est fou, là, mais ça m'a apporté des plus dans mon art, alors que je m'attendais à ce que ça soit bien, que des moins. Là.
Est-ce que tu avais déjà été en contact avec le handicap ou le mot handicap? Est-ce que tu étais à l'aise avec ça avant d'avoir ton amputation?
Tellement pas. Ah oh, non. Je connaissais personne dans mon entourage qui vivait avec un handicap important, qu'il soit physique ou invisible, là, peu importe. Là, c'était pas quelque chose. Puis là, on remonte là 13 ans, donc on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui aussi. Et là, quand tu tombes handicapé, Moi, le mot, je ne l'aimais pas au départ. J'avais de la difficulté à me l'approprier. Je préférais dire que j'étais une personne amputée. Moi, amputation, ça, ça m'allait. Mais là, handicapé, ça, j'étais moins sûre que j'avais le goût de me l'approprier, ce mot-là. Mais puis même, j'avais pas non plus le désir d'aller voir ce que les autres personnes handicapées pouvaient vivre dans leur quotidien. Là, je parle là, dans les premières années, là, une ou deux premières années. J'avais trop de choses à vivre, moi, à apprendre à vivre avec ces deuils-là, hein, le manque que ça m'a apporté. Puis là, ben tranquillement, on dirait qu'une fois qu'on a assimilé ça pour soi-même, là, oui, le mot est encore il devient plus facile à dire, à se l'approprier, à tout simplement à le nommer. Puis après ça, l'intérêt d'aller voir aussi d'autres handicaps, c'est arrivé un petit peu plus tard. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment... Bien, ça m'habite parce que, bon, je peux pas faire comme ça n'existait pas, hein? Je veux dire, c'est là. Mais je réalise aussi toute la richesse que tous ces gens-là, bon, dans des situations comme les miennes, peuvent apporter aux gens qui sont, bien, qui sont dits valides, là.
Mais en plus, j'ai mentionné en intro que tu étais une excellente communicatrice.
Ah, merci.
Parce que tu écris ta chronique dans un journal local. Tu as aussi des expériences à la télévision, dans les médias. Ça t'a amené à, c'est ça, à aller promouvoir ton message autrement.
Oui.
Et tu t'es rapproché beaucoup de l'univers des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Je me disais, tu sais, ça, en te rapprochant de ces gens-là, ça a dû aider à l'acceptation en soi.
En fait, ça a été l'acceptation, puis ensuite l'ouverture, dans mon cas. Je suis sûre que tout le monde a des parcours différents, mais pour moi, ça a été plus, j'ai eu besoin de passer par toute ma montagne à absorber. Puis là, après ça, j'étais prête, puis j'étais ouverte. Puis oui, c'est, tu sais, quand on m'a demandé d'écrire des chroniques, quand le rédacteur en chef m'a communiqué, puis il m'a dit, ça t'intéresserait-tu de faire une chronique une fois par semaine? Et moi, sur le coup, là, je me rappelle encore voir le téléphone, puis le cœur qui débat, puis, vous pensez à moi? Oui, c'est bien sûr. Puis j'étais justement dans un moment où j'étais prête à partager mon quotidien aux personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est le handicap. C'est un peu ça l'angle que j'ai décidé de choisir, c'est de m'adresser aux gens qui ne connaissent que dalle à cette réalité-là qui est quand même différente. Et j'avais envie justement de partager ça, de les... qui apprivoisent aussi puis qui connaissent cette réalité-là pour mieux la comprendre, hein, veut pas. Puis ben ça me sert à moi, là, parce que plus les gens sont sensibilisés, plus qu'on a de l'accessibilité, plus qu'il y a de l'inclusion, plus c'est mieux pour tout le monde,
oui.
Finalement. Là.
C'est excellent. Et dans le fond aussi, qu'est-ce qui est... que je trouve le fun, que c'est amusant. C'est que sur les réseaux sociaux, tu utilises beaucoup l'humour. Donc, on peut voir Marisol sans bras, sans jambes, puis que ses jambes robots, je ne sais pas comment on peut dire ça, sont étalées partout dans une
tout
pièce.
Tout est rapillé.
Mais ça demande de pouvoir rire de soi comme ça. Ça attire énormément, je le vois là, sur les réseaux sociaux, énormément de commentaires d'humour. C'était une stratégie que tu avais dès le départ où tu t'es dit, bon, je vais la première fois que tu as publié ce genre de photos-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu allais utiliser ça, cet humour-là? C'était-tu inné en toi?
Ouais.
Ou c'est devenu comme en fonction des commentaires que tu recevais? T'as comme adapté ta stratégie?
Bien, j'ai envie de dire que ça nous a encouragé à continuer, mais c'était pas une stratégie de départ. En fait, tout mon parcours, que ce soit l'art, les conférences, même l'animation que j'ai eu la chance de faire dernièrement, c'est pas tant des stratégies pour continuer à ce que mon entreprise, même si on le voit, hein, la visibilité, ça ne peut qu'être bénéfique là, pour l'entreprise. Mais je suis partie de moi. J'étais moi, comme ça. J'avais tout cet humour-là, j'avais toute cette façon de m'exprimer. Tout ça m'habitait avant le handicap. Et c'est comme tout naturellement, au fur et à mesure, que je dirais que c'est peut-être c'est, ben, j'allais dire, ces petits talents-là ont ressurgi, ont permis là, de me lancer dans plein de sortes de projets. Mais l'humour, on l'avait déjà. Tu sais, c'est mon amoureux, là. Je me souviens, la première vraie photo, là, qu'on peut dire, là, qui nous a lancé, là, puis qui nous a donné envie de continuer, c'était une journée de verglas, puis c'est comme si j'étais tombée sur mon balcon, puis tous les membres avaient revolé. Mais c'est Alain, le premier, qui... On n'avait même pas le temps de boire notre café ce matin-là, qui regarde dehors, puis il fait, hey, il y a de la glace. hey, on pourrait faire une blague, tu pourrais tomber. Puis, là, écoute, on rit, on s'amuse, on fait la blague. Tu sais, c'est... Puis après ça, bien sûr, quand on voit le petit compteur de j'aime qui tourne, puis de lire tous les commentaires, à quel point que les gens, ça leur faisait un petit rayon de soleil dans leur journée, bien là, oui, tu continues à dire, ça pourrait être quoi la prochaine? Tu sais? Fait qu'éventuellement, c'est devenu un peu comme, oui, peut-être une stratégie, une routine, j'ai envie de dire, parce qu'on se dit toujours, ouais, là, ça fait 3 jours, 4 jours qu'on n'a rien publié. À qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Fait qu'on passe de parfois des trucs un peu plus de mon quotidien, là, tout simplement, mais d'autres fois, là, des trucs plus loufoques, de s'amuser avec souvent un petit deuxième degré, tu sais, parce que pourquoi pas utiliser l'humour pour faire avancer les mentalités? Fait que ça, on s'amuse aussi avec ça.
Mais dans le fond, toi, tu disais, le thème aujourd'hui, c'est créer autrement. Et tu disais en début d'entrevue, tu as su réadapter la façon de tenir le crayon, de revoir tes manières d'utiliser certains outils.
Ouais.
Une chose qu'on sous-estime beaucoup, c'est les capacités des personnes en situation de handicap, mais aussi la débrouillardise de ces personnes-là. Mmh. As-tu des exemples concrets où est-ce que tu te pensais pas capable de faire certaines choses et finalement, tu as comme réutilisé ta créativité, ta débrouillardise pour arriver au meilleur résultat, voire meilleur? On parlait d'exemple du crayon.
Oui.
Mais y a-tu d'autres objets dans ta vie que tu... Il y en a tout, en fait.
Oui, exactement. C'est ça qui arrive. C'est que tout a été à réapprendre. Donc, tout au départ est compliqué, c'est difficile, c'est long. Mais là, plus tu le refais, c'est en faisant les choses à tous les jours, refaire les mêmes gestes. Je pense juste, entre autres, à vider mon lave-vaisselle. C'est la première fois que j'ai regardé le lave-vaisselle, là, puis je me suis dit, bon, go! OK, je vais donner un coup de main là, à la maisonnée là, qui est débordée là, avec tout en plus les travaux d'adaptation. Je vais vider le lave-vaisselle aujourd'hui. Tu sais, c'est ma mission. Ça m'avait pris là 1 heure et même un peu plus là. Mais aujourd'hui, ça me prend 5 à 10 minutes parce que oui, ma main, je la positionne tout de suite de la bonne façon. Je dis ma main, mais là, à la maison, j'ai mes pinces. Ils tiennent vraiment mieux les objets. Je suis sûre de pas les échapper. Fait que je vais positionner ma pince qui a différents angles. Puis je prends tout de suite la bonne chose. Je sais comment tourner ma pince pour arriver à déposer dans l'armoire aussi. Fait que c'est comme si tous ces gestes-là, à force de les refaire, se sont devenus plus efficaces à long terme. Puis là, je parle de mes mains, mais il y a aussi, je commence assis dans mon fauteuil, parce qu'avec des prothèses de jambes, là, c'est très compliqué de se pencher sans tomber. Là. C'est pratiquement impossible. Il y a un certain degré qui fait qu'à un moment donné, la gravité l'emporte. Fait que c'est au départ, commencer assis, mettre sur le comptoir certains objets que je peux pas tout de suite mettre dans les armoires, parce qu'après ça, je vais me lever. Et là, je vais aller placer les autres éléments qui sont du comptoir aux étagères en hauteur. Mais tu sais, c'est ça. C'est d'être créatif dans le sens de pas jamais se limiter en se disant « je serai pas capable ». Tu sais, ça, c'est... Oui, ça va être long. Ça, c'est sûr et certain. Au début, ça va être long. Mais je pense que la persévérance, l'entraînement, puis à plein de niveaux... Tu sais, là, je parle de « je t'ai rendu chez nous », mais... Tu sais, si je recule au début, puis que j'avais même pas de prothèse, c'était de m'habiller. Tu sais, de se dire, je me lève le matin, là, je suis en réadaptation, j'ai un chambreur l'autre côté du rideau, là. Puis lui, il a à peu près mon âge, c'est un homme, je le connais pas, c'est un inconnu. Ben, tu sais, ça m'a motivée à m'habiller rapidement. Je voulais pas qu'il ouvre le rideau pendant que j'étais en train de mettre ma camisole, tu sais. Fait que j'étais motivée. Ça, la motivation, c'est le meilleur moteur pour aller vite dans nos apprentissages. Mais tu sais, j'ai dû tout réapprendre. Fait que c'est avec le temps, la patience, chose que je n'avais pas du tout auparavant.
En passant, Capable Entreprendre sans limite est présenté grâce au soutien de précieux partenaires. Parmi eux, l'Office des personnes handicapées du Québec. Vous êtes une personne handicapée ou un proche, vous avez des questions, besoin d'informations ou de soutien dans vos démarches d'accès à des services. L'Office est là pour vous, gratuitement, partout au Québec. Pour en savoir plus, visitez le www.ophq.gouv.qc.ca. Quand on parle de l'adaptation aussi dans ton entreprise, il y a des choses aussi qui ont changé dans ta façon de travailler.
Oui.
Aussi, est-ce que tu as changé, tu as vu un changement de regard, de la perception que les gens avaient de toi ou tu n'as absolument rien changé là-dessus?
Ça, c'est compliqué parce que au départ, le regard des autres, moi, je voulais pas m'arrêter avec ça. Bien sûr, les gens regardaient, surtout quand j'avais pas de prothèse. Mais moi, je m'étais dit, c'est pas ça qui va m'empêcher de sortir de chez nous, d'aller faire des commissions, de juste vivre, tu sais, puis d'avoir été longtemps à l'hôpital. T'es juste content de sortir de la maison. Fait que j'ai pas voulu me cacher. Il y en avait des regards, mais je voulais même pas les regarder. On dirait qu'ils m'atteignaient pas. Des fois, j'avais l'impression qu'ils atteignaient plus mon conjoint qui poussait le fauteuil roulant. Lui, il les captait plus. Des fois, il me disait, hey, t'as-tu vu? Non, moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai le gros sourire, là, puis j'avance. Mais oui, après ça, avec toute la chance que j'ai eue d'être dans différents médias, les gens me reconnaissaient. Fait que là, c'était différent. Le regard était comme admiratif. Puis là, ben, tu souris, on sourit, tout le monde sourit, tout le monde est heureux, là, tu sais. Fait que là-dessus, je pense que j'ai tellement assumé, ben, d'avoir failli mourir et finalement d'être en vie, que pour moi, tout ça, là, tous ces désagréments-là, ces inconvénients-là, j'ai même pas voulu y penser, m'enfarger là-dedans parce que j'étais en vie, là. C'était tellement plus puissant qu'un petit regard de quelqu'un, là. Tu sais, c'était pas... Mais tu sais, tu parlais de trucs qui ont été adaptés, ça m'a fait penser, oui, mon chevalet est pas pareil à la maison qu'auparavant. Avant, je peignais des grandes murales, donc je fais monter dans des escabeaux. Là, aujourd'hui, monter dans un escabeau, c'est, ça relève du... Pas du défi. J'ai pas envie de dire impossible, là, mais ouais, en tout cas, pas pour tout de suite. Mais Alain m'a construit un chevalet que je peux, dépendamment de la grandeur de ma toile, descendre moi-même. C'est comme s'il y a plusieurs étages, tablettes, et là, je prends le bas de, tu sais, ce qui soutient la toile, puis je vais le descendre pour pouvoir aller peindre, admettons, plus dans le haut. Si je suis rendue à peindre plus dans le bas de ma toile, bien là, tu sais, je prends ma toile, je la mets de côté, je prends la petite tablette, je la monte, puis là, je monte ma toile là. Fait que comme ça, j'ai à ma hauteur le bas de la toile. Fait que, tu sais, c'est des... Puis oui, ça l'a... pas eu le choix que j'ai dû me réorganiser de la façon que je peins pour être efficace au travers de tout ça, pas passer mon temps à monter, descendre ma toile. Tu sais, parce que veux pas, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Puis tout est pesant, puisque mes petits mognons là, sont tout petits. Là. Moi, ça l'arrête à peu près à 2 pouces après le coude. Donc, tout le poids des prothèses, là, c'est au bout. Fait que c'est sûr que le plus possible, ben tu t'arranges pour faire les gestes les moins difficiles.
Oui.
Et essayer d'économiser ton énergie. Puis ça, là, ça revient, là, en gros, là, économiser ses énergies. Je suis sûre que pour toi, c'est la même chose, d'économiser un peu toute ta charge mentale, essayer de regrouper dans certaines actions pour le moins possible, là, arriver brûlé à la fin de la journée.
Les gens sont pas conscients, j'ai l'impression, de l'énergie justement que ça prend dans ton cas parce que tu dois... Il y a une planification à faire à chaque sortie, à chaque action que tu dois poser. C'est plus la spontanéité dans ton cas, c'est tu dois préparer justement tes mains, tes jambes, tu dois préparer les déplacements.
Tout à fait.
Ça a-tu été dur pour toi d'accepter qu'il y avait plus de préparation? Il n'y a rien qui t'empêche d'être spontané, mais quand tu as des engagements...
Ouais, la spontanéité, c'est vraiment un facteur qui fait plus tant partie de nos vies. Oui, c'est triste. Ça fait partie des deuils, en fait. Tu sais, de pouvoir se dire, ah, aujourd'hui, là, on s'en va là, sur un nowhere. Là. On part avec la voiture, là, puis un road trip, là, puis on s'amuse, puis on verra ça nous mènera où. Ouais, là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut quand même penser à apporter les chargeurs, à savoir si je pourrais marcher pendant un bout de temps, je vais peut-être penser à apporter mes béquilles. Est-ce qu'on amène le cartus? Est-ce qu'on amène le fauteuil? Est-ce qu'on recharge le fauteuil avant de partir? On va-tu avoir besoin de la batterie ou Alain va me pousser? Il y a tellement plein de préparations, comme juste pour faire du vélo. Moi, je suis super chanceuse. J'ai un vélo qui me permet... Bien, il est comme couché, donc je ne suis pas debout. Je ne risque pas de tomber là, de côté. C'est pas un vélo qui est pour personne handicapée parce que c'est mes jambes qui vont pédaler. On en voit parfois là, sur le bord des rues ce type de vélo-là. Mais là, on se dit, OK, tu as envie de faire du vélo, il fait beau, la température est parfaite. Bon, moi, c'est pas je sors dehors, puis je prends mon vélo, puis on est parti.
Non, c'est ça.
Faut qu'on change mes souliers pour mettre des souliers à clap. Faut que je sorte les télécommandes pour pouvoir... Maintenant, c'est avec une application iPhone, mais avant, j'avais d'autres jambes. J'avais besoin de mes petites télécommandes pour mettre le mode rotateur. En fait, pour que le genou puisse tourner le pédalier là, sans souci. Fait que là, tu penses à ça. OK, là, il y a le casque. Moi, je suis pas capable de me l'attacher. Il faut que mon conjoint me le mette. Après ça, de m'asseoir sur le vélo, là, c'est lui qu'il faut qu'il me descende parce qu'il est presque couché au sol. Donc, tu sais, je peux pas me laisser tomber dedans. Fait que, tu sais, avant qu'on soit prête à partir, là, il y a eu tout ça avant. Fait que c'est à peu près quoi, 45 minutes de préparation. Mais là, c'est sûr qu'une fois que je suis rendu assis puis que je peux pédaler, quel bonheur! Quelle chance! Tu sais, c'est pas toutes les personnes handicapées, là, physiques comme moi, qui se retrouvent à être amputées ou même paralysées, qui vont pouvoir, tu sais, rouler eux-mêmes, de pédaler leur vélo. Fait que là, une fois que je suis lancée, je ne suis que bonheur, 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 là. Mais il reste que, tu sais, avant, c'était bien plus simple, là.
Mais tout, qu'est-ce que tu viens de dire? Ça me fait penser à quel point, quand tu fais ton développement d'affaires, quand tu vas chercher des nouveaux clients, est-ce que tu arrives facilement à dire, ben si je travaille avec vous, faut que vous soyez conscient que mon énergie, ma préparation, tu dois avoir beaucoup plus de questions à leur poser,
ouais,
faut qu'ils s'adaptent à toi, puis qu'ils comprennent que c'est pas juste aller-retour. Là.
Ben c'est souvent de penser, est-ce que ça va être possible? Comme dernièrement, là, j'animais une émission et là de me dire, est-ce que je peux accepter ce contrat-là? Est-ce que ça va être faisable? Tout simplement, le temps de route, parce que bon, ça se passait à Longueuil, fait qu'il faut prévoir quand même là, tous ces kilomètres-là, mais une fois sur place, c'est sûr que moi, j'ai besoin de mon proche aidant là, pour aller à la salle de bain. Puis je leur demande, je leur ai posé plein de questions, puis ils m'ont même dit, « Hey, t'es comme la première qui nous pose toutes ces questions-là. » Mais j'ai pas le choix de savoir dans quoi je vais m'embarquer, parce qu'il est hors de question que je m'embarque dans quelque chose que j'arriverai pas à amener à terme. Tu sais, il faut quand même que j'ai tout penser avant d'accepter. Fait que c'est à ce niveau-là que ça va changer. Du côté de l'art, bon, c'est sûr que les conférences, oui, il faut toujours que je demande l'adaptation. Est-ce que pour monter sur scène, il va avoir une rampe d'accès? Est-ce que le local, tout simplement, est adapté? On fait beaucoup d'écoles, on fait des ateliers dans les écoles, puis ça, malheureusement, nos écoles au Québec, surtout aux primaires, là, sont rarement adaptées. Secondaire, c'est un petit peu mieux, là, mais les écoles primaires, c'est des vieilles écoles, c'est toujours compliqué. Donc là, il faut même que d'avance, je les avise que peut-être de demander une rampe d'accès à leur centre de services scolaires ou à la ville. Des fois, les municipalités ont aussi des regroupements de personnes handicapées qui peuvent les conseiller ou les diriger vers les bonnes ressources. C'est toute la préparation que quelqu'un qui n'est pas handicapé, il reçoit le téléphone pour « Oui, vous me voulez en conférence, parfait, telle date, ça finit là. » Mais moi, c'est important de savoir est-ce que je vais pouvoir tout simplement bien, me rendre. Mais côté peinture, là, à ce moment-là, tout cet adaptateur-là est dans mon atelier. Puis les gens qui achètent mes toiles, puis ça, c'est bien une petite fierté, chouette qu'ils savent. Tu sais, qu'ils ne sachent pas que je suis une personne en situation de handicap.
Ah oui?
Moi, ce que je préfère, c'est que les gens
trippent
sur mes toiles, trouvent ça beau, puis qu'après, oui, tant mieux, c'est un plus de savoir que hey, la fille qui les a peints, elle n'a pas de main. Oh, là, des fois, tu as des réactions, tu sais. Mais ça reste que, oui, j'ai aussi des clients, parce que je ne veux pas que j'amène un visuel. C'est des petites îles, tu sais, c'est beaucoup de symbolique par rapport à l'isolement, par rapport à ce qu'on peut vivre là, en tant que personne handicapée, de se retrouver tout seul de notre gang, entouré d'une mer hostile, si on veut. Donc, je vais peindre souvent des petites îles. Fait que les gens qui me connaissent vont parfois me commander des toiles parce qu'ils savent ce que ça représente, tout ce un peu cet univers-là, c'est les défis aussi. Puis là, ils vont personnaliser en me demandant de mettre sur l'île leur petit paradis. Parce qu'il faut dire que moi, sur mes petites îles que je peins, c'est toujours un petit paradis. Parce que même si tout mon environnement est compliqué, bien, ça reste que ma vie est belle, pareil. C'est ça que j'ai voulu montrer par mon art. Puis je trouve ça le fun quand les gens ils me disent, « Bien, moi, j'aimerais ça, peux-tu me mettre mon petit chien? » Ou, tu sais, des choses qui eux, les ressemblent, qui se retrouvent dans la toile. Fait que c'est ça l'a amené des plus, en quelque part. Mais oui, ça prend beaucoup de préparation.
Mais c'est ça, les gens sont pas conscients de l'énergie, comme on en disait tantôt, que ça demande.
Oui.
Puis à onde aussi, tu me disais que c'était beaucoup aussi dans le cerveau, que le cerveau en soi est un muscle qui doit accumuler l'information, qui doit justement bien nous préparer avant chaque situation. Mais les gens sont pas toujours conscients.
Non.
Nous, on a des défis. Moi, c'est entendre. Il y en a d'autres que c'est la parole. Donc, tout le monde, notre débrouillardise vient aussi dans la préparation.
Oui.
Et... Une dernière question, en fait, pas une dernière, une avant-dernière question. Est-ce que tu dirais que la façon d'aller chercher, t'es aller chercher de l'aide financière aussi pour mieux structurer ton entreprise, adapter ou tu t'es arrangé en changeant rien à ce niveau là-dessus?
Au départ, là, quand j'ai lancé l'entreprise un an avant la quadruple amputation, j'avais fait le choix de ne pas aller chercher du financement.
Okay.
Parce que quand on est artiste peintre, on ne sait jamais ce qui est devant nous. Et là, de s'embarquer avec un prêt, avec une institution financière, ou même d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un, je ne le sentais pas. Je n'avais pas envie d'avoir cette pression-là. Et quand c'est arrivé, je m'en suis félicitée, hein, parce que j'avais zéro dette, là, mais tout ce que j'avais comme profit, je réinvestissais automatiquement dans le matériel, t'sais, pour vraiment là, bâtir l'entreprise. Parce que là, à ce moment-là, on avait des petits meubles, on faisait des lampes de chevet. T'sais, on avait là, vraiment une belle gamme de produits aussi. Fait qu'on avait investi dans des outils, l'outillage, des rubans, des scies à rubans, t'sais, un paquet de petits trucs comme ça. Mais c'était toujours avec nos profits. Et j'ai continué à penser de la même façon quand c'est arrivé. Puis heureusement, j'ai envie de dire, parce que bon, de toute façon, c'est pas tant de moyens. C'est pas non plus quand on peint une toile. Oui, j'ai besoin de la toile, j'ai besoin de la peinture, mais ça, il y a un petit frais que je charge au client pour les matériaux. Puis voilà, c'est assumé, tout est parfait. Le reste, c'est chez nous. Fait que c'est mon loyer, c'est ma maison, c'est mon hypothèque. J'ai pas à avoir un bureau à côté, à avoir tous des frais, là. Puis heureusement. Puis il y a aussi le fait que je suis très, très, très polyvalente. Fait que tout mon graphisme, mon site Internet, c'est moi qui est mon webmestre, je fais ma comptabilité. Tu sais, on fait vraiment tout à deux, là. Alain s'occupe tout du reste, là, qui est plus magasiné, un paquet de trucs plus... ben que moi, j'y arriverais pas. Mais ensemble, comme ça, on fait une super bonne équipe. Puis on la faisait avant, puis on l'a continué après. Fait que, ouais, on n'est pas allé chercher d'argent. Puis c'est pour ça que je dis... Heureusement, parce que là, le contexte en ce moment est tellement inquiétant que si j'avais des paiements à rencontrer, mon niveau de stress serait vraiment trop élevé. Puis ça, j'ai pas envie de vivre ça. Je trouve que la vie est assez difficile à encaisser au jour le jour que de me rajouter un stress. Bon, je dis pas que j'ai pas de stress, là, parce qu'il faut quand même manger, hein, faut quand même que les contrats rentrent. Puis avec les coupures qu'on connaît dans le système d'éducation, c'est sûr que nous, ça nous touche tout de suite, là, avec nos ateliers dans les écoles. C'est clair que là, on est en train de se dire, bon, comment aller chercher un peu ces revenus-là qu'on avait auparavant, parce que je suis pas mal certaine que ça va descendre. Fait qu'il y a encore toujours de l'inquiétude et du stress, mais au moins, j'ai pas de compte à rendre à personne à part qu'à moi puis à mon amoureux.
Moi, je te félicite parce que t'as quand même su à te réinventer autrement assez rapidement. De la manière que tu racontes aussi, ça t'a poussé à communiquer, à vulgariser, à sensibiliser indirectement les gens, mais sans nécessairement te plaindre ou être dans un mode d'ambiance négative. T'as toujours resté... très humble, puis très avec une touche humoristique aussi. Capable Entreprendre sans limite vous est présenté grâce au soutien de précieux partenaires. Parmi eux, Evol. Depuis 30 ans, Evol soutient les entrepreneurs du Québec avec une approche humaine et distinctive. L'organisation reconnaît la vision unique de chaque projet et prend le temps de comprendre la réalité des entrepreneurs afin d'offrir un accompagnement personnalisé. Personne ne devrait avancer seul devant les défis. Pour en savoir plus, visitez evol.ca. Et on arrive déjà à la dernière question. Moi, j'aimerais savoir quel conseil que tu aurais à donner aux personnes qui ont le désir d'entreprendre, mais qui vivent du jour au lendemain, ou qui ont déjà une entreprise, mais vivent du jour au lendemain un événement important qui les invite à perdre leur sens, leurs outils principaux.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour qu'ils continuent à entreprendre, à créer autrement?
D'abord, accuser le choc. Tu sais, là, c'est pas le temps de commencer à penser son entreprise quand on vit des grands bouleversements. Je pense qu'il faut prendre le temps de vivre ses deuils, de vraiment vivre cette étape-là. De toute façon, on pourra pas passer à la prochaine étape si on n'a pas réglé ce difficile, ce dur moment-là, mais qui est nécessaire. Puis après, bien, c'est de partir de soi. Si on avait une entreprise avant dans quelque chose qui nous passionnait, ça va encore nous passionner. Fait que c'est d'aller chercher ce qu'on a en dedans de soi. La petite voix qui nous parle, là, c'est toujours celle-là qu'il faut écouter. Puis de s'entourer des gens qui sont positifs aussi, qui vont nous aider, qui vont nous permettre de toujours avancer. On n'a pas le choix des fois de faire un petit peu de ménage, hein, de lâcher, de lester, j'ai envie de dire, les gens qui vont peut-être nous ralentir, qui vont nous maintenir. Parce que oui, pour certains qui nous connaissaient avant, ils disent, ben là, tu seras jamais capable. Hey, c'est ben trop gros. Non, non. Faites-vous confiance. Donnez-vous le temps. Puis oui, vous allez être capable.
Et ça conclut parfaitement l'émission. Merci beaucoup, Marcel.
Un plaisir. Merci beaucoup, Kim.
Un petit côté artistique. Fait que pour chaque temps que j'ai invité, j'ai fait une petite. Moi, c'est des citations que je fais.
Oui.
Fait que là, je fais des citations personnalisées pour chacun de mes invités. Je t'ai fait un petit cadeau.
Ah, merci.
En fonction de la thématique d'aujourd'hui. Fait que
ça. Wow, ok, c'est redéfini. C'est possible. Magnifique.
Puis j'ai un autre cadeau pour toi qui est offert par. Touriste,
un complet
de gâté avec des choix personnalisés qui te représentent bien.
Ah, c'est bien le fun!